séquence, 219e prise et ça tourne.
Deux invités clandestins, voilà, auteurs d'un livre qui s'appelle « Reflet dans un œil mort, Mondo Movie et autres films de cannibales ».
Bonsoir.
Voilà, bonsoir.
Bonsoir.
Donc on a Maxime Lachaud et Stéphane.
Alors, Sébastien Guéraud.
Pardon, Sébastien, voilà, oui, Sébastien Guéraud, ça commence bien. Je suis un peu déphasé. bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Voilà, donc pour commencer, avant de parler du livre, bien évidemment, on va pas faire étalage de votre parcours, parce que ce serait un peu long et on n'aurait plus le temps de parler du livre. Mais plutôt, pour commencer, justement, première question. Qu'est-ce qui, chacun de vous, quel a été le déclic pour se mettre à écrire sur le cinéma ? Comment est arrivé le passage à l'acte, je dirais ?
Disons, pour ce livre en particulier, ça a été vraiment simultané. Parce que là, c'est vrai qu'on a été ensemble quand on a découvert ce cinéma. Lors du festival Extrême que tu connais bien,
oui. Oui.
Voilà l'édition 2007.
Oui, donc édition effectivement qui avait consacré une très très large programmation au cinéma Mondo, donc un cinéma qu'on connaissait sans vraiment connaître plus que ça. Et en fait, c'est ça qui a tout déclenché, c'est-à-dire que ça a été vraiment ces projections-là qu'on a vues ensemble. Et ce qui était important, je pense, c'est qu'on a vu beaucoup de films sur une courte période. Ce qui nous a sauté aux yeux, évidemment, c'était l'ensemble de l'esthétique, la thématique, surtout. Il y avait un ensemble de choses qui étaient extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Et à un autre niveau, on s'est aperçu qu'il y avait peu de documentation et aucun livre sur le sujet.
Y compris dans les pays anglo-saxons.
Il y en a deux qui existent, en fait. Il y a le fameux Killing for Culture, qui est un livre culte, mais épuisé depuis 15 ans, et un livre plus récent qui s'appelle Sweet and Savage, donc évidemment qu'on a lu, mais qui reste quand même, surtout pour les lecteurs francophones, des objets assez rares. Et donc il y avait un vide, on sentait qu'il y avait...
Quelques fanzines, il y avait Psychovision, ou Mondo Extremo, des fanzines, mais alors complètement introuvables.
Ouais.
Qui avait fait des petits numéros spéciaux. Il y avait même le fanzine de Norbert Moutier.
Oui.
Voilà, qui avait fait un numéro, mais c'était vraiment très, très marginal.
C'était très, très marginal. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'il y avait une absence critique, déjà, parce que les quelques les seuls textes qu'on a pu lire étaient des textes extrêmement négatifs, qui étaient insultants par rapport à ce cinéma-là. Donc en fait, il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'on était frappé par la grande force qu'on sentait dans ces films, par la beauté aussi qu'il y avait dedans. Et il y avait après un vide critique et intellectuel autour de ça. Donc c'est vrai que ça s'est fait de manière instinctive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vu ces films, on a voulu écrire dessus. C'était quelque chose qui était...
Viscéral.
Oui, c'était
viscéral. Le mot est bien choisi pour le Mondo. Enfin,
ouais, ouais, voilà. Ça a été vraiment ça a été un enthousiasme pur, mm-hmm. je dirais, quand on a commencé.
Je sais qu'on en parlait pendant des heures, on regardait les films, on était un peu comme des cobayes devant les projections,
oui.
et on explorait un peu nos sentiments face à ce genre de film, où c'était des sentiments forcément très contradictoires, et ça nous intéressait, et puis c'est vrai que de suite, on allait fouiller dans les bibliothèques, on s'est mis très vite à écrire, en fait.
Oui, ça s'est passé très très vite, et on a eu ça a été le début, je dirais, d'une période un petit peu exploratoire, parce qu'on a, on découvrait sans arrêt des nouveaux films, et puis on s'apercevait qu'il y avait... Là aussi, c'est pareil, une grande... Bon, je pense que dès qu'on s'attaque à un sujet comme ça, évidemment, la difficulté, c'est le corpus, parce qu'il y a une... Il y a aucune filmographie définitive qui a été établie sur le genre, c'est-à-dire que chaque édition propose un petit peu... Enfin, chaque ouvrage propose un peu des filmos qui sont souvent très disparates. Et donc, évidemment, on s'est retrouvé face à un sujet qui était totalement tentaculaire.
J'allais dire, c'est une vraie jungle.
C'est une jungle, ouais, ça, sans faire de jeu de mots. Oui, c'est vrai qu'on s'est retrouvé effectivement dans quelque chose qui était totalement démesuré. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement... Ça aussi, ça faisait partie... C'était très,
c'est
très fort.
C'est toujours jouissif de découvrir sans arrêt. Mmh. C'est pas si éloigné de l'enquête, plus vu qu'en plus on a rencontré certains réalisateurs. Il y a vraiment un côté enquête et en même temps il y a un côté analytique. On va chercher à nous-mêmes aussi, dans nos propres réflexions et aussi par rapport au ressenti face à ces films-là, à l'esthétique de ces films-là. Donc c'est vrai que c'est un très grand plaisir.
C'est un très très grand plaisir. Et puis c'est vrai qu'on a eu la chance, c'est vrai, la très très grande chance de rencontrer des personnes, évidemment, qui nous ont été d'une aide vraiment cruciale. Bon, il y a des collectionneurs nous ont prêté leurs archives. on a surtout eu cette très très grande chance, effectivement, de rencontrer les frères Angelo et Alfredo Castiglioni, donc de grands réalisateurs de Mondo. Et bon, évidemment, leur interview a été pour nous une très très grande source, et bon, on a rencontré aussi d'autres personnes. Et c'est vrai qu'il y a eu un côté, effectivement, un petit côté enquête, presque un côté polar, des fois un peu, parce qu'il fallait chercher des choses qui étaient des choses inconnues. Il y a même, bon, il y a des choses d'ailleurs qui sont pour nous restées mystérieuses. C'est vrai qu'il y a, je pense notamment, on a essayé de rencontrer le co-réalisateur de Carré Blanc, comment il s'appelle déjà ?
C'était Delannoy.
Oui, Gilles Delannoy, voilà.
Voilà, c'était lui.
On a essayé de le rencontrer sans succès, bon, ce qui pour nous nous a fait un peu de peine, parce qu'on voulait vraiment savoir, par exemple, un film comme Carré Blanc, qui est une espèce d'énigme cinématographique, une sorte d'ovni, on ne sait même pas à quoi ça sert, pourquoi ça a été fait, on ne sait pas. Et on aurait vraiment aimé percer le mystère de ce film, savoir qu'est-ce que c'est que ce truc. Et on a, bon, évidemment, on n'a pas pu avoir accès à la source, vu qu'il n'a pas voulu nous parler, mais du coup, on s'est retrouvé, bon, on a essayé avec nos propres codes d'essayer de voir un petit peu, d'analyser un peu cet objet bizarre, mais on n'est jamais arrivé à avoir le dernier mot de ce film.
Ça fait partie on a eu pas mal de refus, parce que rien que le terme de Mondo Movies...
Oui, ça a effrayé pas mal de gens.
Ouais, et puis d'ailleurs, on essayait de ne pas l'utiliser. On disait les documentaires ethnographiques. Assez particulier.
Oui, parce qu'il y avait ce truc-là, c'est qu'on s'est aperçu. C'est vrai que bon, le Mondo, par définition, c'est bien un cinéma, je dirais, controversé, et qui porte un petit peu qui sent un peu le soufre, c'est bien celui-là. Et c'est vrai que, du coup, le terme même n'est pas assumé par tout le monde. Et il y a eu, effectivement, on s'est aperçu qu'il y a une, je dirais, une méfiance par rapport à ce cinéma-là, qui persiste aujourd'hui, ce qui, évidemment... tendait encore une fois à nous conforter dans l'idée qu'il fallait faire quelque chose, parce que c'était vraiment un objet curieux, très, très étrange, et qui met les gens mal à l'aise, même encore aujourd'hui.
Alors, le livre, déjà, on va le signaler, Il a été publié dans la collection de Julien Cévéon. Comment s'est passée la rencontre?
Mais en fait, Julien Cévéon, en fait, on l'a jamais vu.
C'est-à-dire qu'il D'accord. C'est l'homme invisible.
C'est un peu l'homme invisible. Et en fait, on a donc les éditions s'appellent donc Bazar & Co. Mm-hmm. Et c'est un éditeur qui autrefois était Dreamland et qui a changé de nom et qui s'est spécialisé effectivement depuis un certain nombre d'années dans le cinéma d'exploitation. Donc, ils ont sorti un livre sur la Blaxploitation, mm-hmm. sur le mm-hmm.
Mais les sourcils sont moins épais quand même. Hein.
Ouais. Il y a eu Lucio Fulci, le western. Oui. Ouais.
Qui était un pavé quand
italien.
Même.
Celui-là, oui.
Le western européen qui était un gros pavé. Et c'est vrai qu'effectivement, le nôtre, effectivement, on est arrivé avec cette espèce de manuscrit comme ça qui ressemblait à un frigo. C'était un petit peu.
Il est un peu plus gros.
Oui, ouais, c'était un petit peu plus gros. Et c'est vrai qu'effectivement, on s'est aperçu que c'est vrai que quand on l'a vu comme ça, ça fait 360 pages. Et c'est vrai que les gens étaient un petit peu surpris au départ parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on ait pondu un truc comme ça sur un sujet pareil. Mmh. Il y avait une...
Alors justement, j'allais y venir parce que est-ce que le Mondo n'est pas tombé un petit peu, enfin, pas été victime, je dirais, d'une amnésie collective des critiques je dirais qui avait craché dessus à l'époque de leur sortie.
Oui,
quoi.
Bien sûr. Alors, juste, il faudrait peut-être pour les...
Parce que tous les autres gens ont été plus ou moins réhabilités.
Oui, mais bon. Pas celui-là. Oui. Et, enfin, pour les auditeurs, il faudrait peut-être expliquer un petit peu ce qu'est le cinéma Mondo. Peut-être, parce qu'il y a... Bon, en fait, le Mondo, c'est un genre qui est né au début des années 60, avec un film qui s'appelait Mondokan, qui se présentait en fait comme une sorte de documentaire tourné aux quatre coins du monde, où les réalisateurs en fait allaient saisir toutes sortes de scènes choquantes, spectaculaires ou insolites, avec évidemment une prédominance pour les scènes de sexe et de violence, évidemment, comme on s'en doute. Et donc ça a créé un genre qui a duré une vingtaine d'années, qui s'est éteint avec la vidéo vers la fin des années 80. Et donc, il constitue effectivement un genre qui a été très populaire, en tout cas...
Au niveau des entrées.
Oui, au niveau des entrées,
carrément.
Mais qui a été, évidemment, dès le début, massacré par la critique, qui voyait une perversion du documentaire.
La fameuse phrase de Danné.
Voilà. Et donc, c'est vrai que c'était... Et même encore aujourd'hui, il faut rappeler qu'évidemment, le Mondo jouait beaucoup aussi la carte, parfois de la supercherie, en truquant des scènes.
Films qui passaient plutôt aussi dans les salles de quartier.
Bien sûr.
Qu'il n'y avait pas sur rue dans les grands cinémas, entre guillemets.
Après, c'est étonnant quand il y a des photos qui sont reproduites dans le livre de la foule devant un des films des Castiglioni, Africa à main. Et c'est impressionnant, c'était ça le comble. Ces films-là ont vraiment beaucoup marché, même si peu de gens s'en souviennent.
Mais on ne s'en souvient pas parce qu'il n'y a pas eu perpétuation de la mémoire.
Voilà, parce que c'est vrai que quand on regardait par exemple les anthologies du cinéma documentaire ou du cinéma italien, il n'y a absolument rien. À la limite, ça peut être mentionné pour dire qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt.
Oui, voilà, oui.
Oui. Donc c'est vrai qu'il y a eu une amnésie générale, comme tu as dit.
C'est le travers des critiques officielles, entre guillemets.
Ouais.
Enfin,
oui.
On le voit même pour des genres, enfin, sans parler du Mondo, mais qu'à regarder le livre, par exemple, de Mirabella, sur le renouveau du cinéma italien, où dans toute la première partie, il fait un rapide historique sur la moitié du bouquin, de toute l'histoire du cinéma italien, et il cite une seule fois Sergio Leone, et Dario Argento n'est même pas mentionné. Quoi.
Oui, ouais.
Bon, voilà. Quoi.
Oui. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a une... Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le cinéma d'horreur, d'exploitation, quel que soit les noms qu'on lui donne, ont été en partie réhabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des bouquins sur Argento, on a des bouquins sur Fulci. Mmh. Ça existe, et d'une manière générale, même les revues comme les Cahiers du cinéma et autres... Aujourd'hui, ils ont réhabilité Argento, tous les cinéastes d'horreur des années 80 aujourd'hui ont été décortiqués, analysés. Et le Mondo, finalement, reste un peu cette espèce de terrain, une espèce d'angle mort un petit peu du cinéma, où encore aujourd'hui, il fallait que... On a mis un petit peu les mains dans le cambouis, si je puis dire. On a essayé de combler ce vide-là, d'essayer de faire le bouquin qu'on aurait aimé lire en tant que lecteur, si on l'avait trouvé.
Alors, dans la construction du bouquin, déjà, c'est quasiment un Mondo, quoi. non? Il y a un côté un peu bordélique, quoi, volontaire, bien je sûr. Suppose. Ah ben,
oui, après, oui, qu'effectivement. Mais disons qu'il y a, comme on l'a dit, c'est quelque chose de, On était face à un sujet qui était éclaté, tentaculaire, qui partait dans tous les sens. Et donc, évidemment, notre réception et notre écriture par rapport au livre, ben, évidemment, tend à aller vers ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a voulu proposer toutes les pistes, en tout cas, qui pour nous paraissaient pertinentes. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être, pour les lecteurs, on s'est aperçu qu'il y avait parfois un travail de tri. Bon, il y a des gens qui nous disaient qu'ils étaient d'accord avec telle piste et pas avec d'autres, de choses qui leur paraissaient. Disons que c'est un livre, après, il faut le prendre comme une série de portes ouvertes, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose, en tout cas, qui tend des perches un petit peu au lecteur en disant voilà, bon, c'est.
Après, on l'a quand même vraiment structuré dans une première partie plus historique.
Voilà. Et la deuxième partie plus analytique.
Analytique et thématique, en fait. Donc, c'est vrai que cette seconde partie est faite de plein de pistes, de thématiques qui sont abordées. Mais vu que c'est un cinéma qui inclut plein d'éléments hétérogènes, forcément, si on veut analyser son esthétique, on inclut tous ces éléments hétérogènes et parfois contradictoires.
Oui.
Donc voilà, c'est pour ça que même le livre peut s'apparenter d'un certain aspect à un mondo.
Oui, c'est un bouquin qu'on peut ressentir comme tel, parce qu'il a, c'est un bouquin qui propose un voyage et qui effectivement, je pense qu'il y a une, bon, je pense qu'un élément qui est ça aussi, bon, on nous en a fait la réflexion, c'est qu'évidemment il y a un élément qu'on ne peut pas ignorer avec le mondo, c'est évidemment la représentation de la violence. Il y a une violence quand même assez extrême, et à partir des années 70, donc avec l'apparition de la série des Faces à la mort, etc., bien sûr, on a eu une escalade dans la morbidité, si je puis dire, et cette violence-là, évidemment, est présente aussi dans le livre.
Et puis l'iconographie elle-même est tellement variée, des films sexy des années 60, et puis même fin des années 50, qui étaient un peu les prémices du cinéma mondo, jusqu'à ces films qui représentaient la mort à l'écran dans les années 80, c'est quand même très varié.
C'est quand même très varié.
Ce qui est représenté.
Puis on avait les films de cannibales aussi, qui étaient déjà...
Une extension, quoi.
Qui était une extension, qui était plus fictionnelle déjà, qui reprenait des éléments des films de jungle. Donc là, on est quand même... Même si, effectivement, on a tout le langage de ces films est emprunté au mondo, on retrouve quand même... la fiction, le scénario, donc avec le fameux Cannibal Holocaust, qui doit entièrement, je dirais, sa raison d'être au cinéma mondo. Donc c'est vrai que rien que ça, vous voyez qu'on est dans quelque chose de, ben c'est déjà éclaté. Donc il y a les fameux, bon, ce qu'on a appelé on en parle un petit peu à la fin, c'est toute la, je dirais, les affaires un peu autour des mythiques Snuff Movies, avec ces films où on prétendait qu'on avait réellement tué les acteurs. Donc on a déjà quand même...
A priori, Deodato aussi.
Ben oui, Deodato qui a été accusé d'avoir assassiné ces acteurs. Bon, évidemment, c'était pas vrai, mais bon, il y avait une rumeur. Et donc, il y a beaucoup de pistes déjà qui sont très disparates, mais qui ressortent en tout cas de cette esthétique.
D'accord. Peut-être un mot. Vous avez mis 3 ans, à peu près. Donc moi, la question que je me posais, parce que quand même, il faut s'accrocher, quand on veut lire le bouquin de bout en bout, on baigne quand même dans un univers pas très gai. Donc, comment vous avez fait pour ne pas déprimer en bossant 3 ans dessus?
Ben, c'est là tout l'avantage de travailler à deux quand même. Ça rend déjà les choses beaucoup moins... sordide. Certains films sont très durs à visionner.
Oui.
Donc, c'est vrai que le fait de les voir à deux, et puis aussi avec le recul de l'analyse et du chercheur, parce qu'on peut dire qu'on a vraiment fait de la recherche sur ce cinéma, quelque part, tout cet aspect-là, on arrive à mettre une distance de ce fait du travail à deux mains, et de ce fait de, aussi... la distance analytique. Donc, on a même pris du plaisir et beaucoup ri dans l'écriture, parce que certains mondos sont très drôles, d'autres le sont beaucoup moins. Mais c'est très varié. Ce qui est intéressant, c'est sur le plan aussi émotionnel, parce qu'on est face à des réactions qui sont tellement différentes. On peut réagir de manière complètement contrastée face à la même scène, juste parce qu'elle est juxtaposée à une autre scène avant et une autre scène après. Et ça, c'était intéressant. Donc, on analysait, nous-mêmes, on était des sujets d'analyse, presque.
Oui.
Donc, c'est comme une mise en abîme. C'est comme dans Cannibal Holocaust, où il y a du vrai dans du faux, faux dans du vrai, comme dans beaucoup de monde de movie.
Mais enfin, Cannibal Holocaust, c'est un espèce de sommet dans le genre. C'est une mise en abîme.
Ah oui, carrément. Ouais, ouais.
C'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé. C'est vrai qu'on a beaucoup ri, effectivement, dans ces... au cours de cette recherche-là. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu, à quelques reprises, des moments extrêmement étranges. Mmh. Je me rappelle notamment quand on a découvert le film Executions, par exemple, qui est un film...
Très dur,
qui est consacré, par exemple, à toutes les méthodes d'exécution publique à travers le monde. Mmh. Donc on est quand même face à quelque chose d'extrêmement violent. Mmh. Ça, c'est, évidemment, il y a des... Ou Death Woman aussi, qui est une suite d'exhibitions, je dirais, de cadavres de femmes... et d'archives de police tournées sur des scènes de crime, bon, on est dans quelque chose, effectivement, d'extrêmement curieux. Et c'est vrai que, c'est, évidemment, il y a une... Donc, nous-mêmes, effectivement, on était nos propres sujets, nos propres cobayes, si je puis dire, parce qu'on est face à une structure spectatorielle assez inédite. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on a effectivement des réactions, on s'en aperçoit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lisent le livre et qui disent « Ah oui, ça m'intéresse, mais il y a des films, je ne peux pas les voir !» et ça, évidemment, bon, c'est un peu notre rôle à nous, un petit peu de...
Bon, nous-mêmes, il y a des films, on les a vus pour les besoins du livre, je ne pense pas qu'on les revisionnera après coup, parce que...
Un exemple
moi je sais qu'il y en a un qui est très dur, qui est vraiment intéressant, parce qu'il y a encore toute une cinématographie, mais c'est Shocking Africa,
ah oui.
Qui est très très dur à visionner, parce que c'est sur des rituels, c'est que du vrai, c'est sur des rituels donc de...
comment on appelle ça
De clitoridectomie, voilà. En fait, et ce genre de choses... Donc c'est assez difficile à regarder, même si ça a une vraie valeur anthropologique. Oui.
D'accord, ouais. Alors justement, c'est toute l'ambivalence, je dirais, du Mondo. C'est que d'un côté, maintenant, certaines scènes de Mondo deviennent effectivement des vrais objets de recherche.
Oui,
carrément. Je dirais. Alors qu'à l'époque, le but n'était pas... Enfin, le but présenté était tel, mais le but avoué était loin d'être...
C'était un but de divertissement.
Oui. On va faire une pause avec un extrait donc d'un musical, d'un film Mondo.
Oui.
Alors justement, j'en viens à cette question, parce que le Mondo est un petit peu l'ancêtre, on peut le dire, de la télé-réalité.
Ouais.
Mais en même temps, au niveau musical, est-ce qu'il n'est pas un peu l'ancêtre du easy listening?
Oui, c'est quelque chose évidemment de très fort, parce que bon, comme on l'a souligné, bon, c'est vrai que c'était des films qui en termes de financement, finalement, coûtait pas cher parce qu'il n'y avait pas de stars. Il fallait. Après, c'était difficile. Parce
mais paradoxalement, il n'y avait pas beaucoup de stock shots, apparemment.
Il y en a un peu, mais pas
tant que ça.
Mais après, bon, c'était quand même des tournages en 35 avec un matériel très lourd. Mais c'est vrai qu'une grande partie du budget partait dans la composition musicale. Et donc, c'est vrai qu'on a un petit peu la fine fleur un petit peu de tous les compositeurs italiens de l'époque. Il y a Ennio Morricone, évidemment, qui avait fait la BO de Malamondo, mais on a surtout des noms comme Rizzo Ortolani, Carlo Savina, Piero Umiliani, qui est un très très grand compositeur. Et c'est vrai qu'effectivement, on peut dire que la musique de Mondo, puisqu'on peut l'appeler comme ça, préfigure ce qu'on appelle aujourd'hui l'exotica, le easy listening. C'est-à-dire qu'on est face à des musiques souvent très langoureuses, avec des mélodies souvent assez mélancoliques, mais toujours dans... cette idée d'exotisme et de voyage, c'est-à-dire qu'on se retrouve, en général, les BO de Mondo se présentent comme des espèces d'assemblages comme ça de thèmes, avec des couleurs musicales qui sont tantôt hawaïennes, tantôt espagnoles, tantôt chinoises, etc. Et qui, évidemment, comme c'est un cinéma très fragmenté, qui sont juxtaposées les unes aux autres. Mmh. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des BO absolument superbes, je pense notamment à Piero Umiliani, qui avait fait... Suède, Enfer et Paradis. Enfin, bref. Et donc, c'est vrai qu'on est...
Dans laquelle il y a Mana Mana, qui est devenu très connu après avec Benny Hill et...
Et le Muppet Show.
Mana Mana.
Voilà.
Comme ça, tout le monde s'y tue.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
D'accord. Bah, je vous propose donc Africana.
Oui. Africana.
Oui, Ama, pardon. Oui.
Parfait. Une musique assez, assez étonnante qui, elle, est plus d'un versant presque expérimental, vu que ça mélange à la fois des prises de son en direct faites dans des tribus avec des sortes de bidouillages électroniques.
Oui.
C'est assez étonnant.
Une musique assez hypnotique qui a été composée par Angelo Francesco Lavagnino, qui était notamment qui est connu des cinéphiles pour avoir été révélé par Orson Welles.
Bah oui, hein, toute une époque. Bon.
C'est assez psychédélique.
Oui,
en
mais
fait,
pas, justement, je me disais pas si éloigné en fait de la musique de Jerry Goldsmith pour la planète des singes. Non
oui, c'est ben là on est vraiment dans l'électronique 60s, hein, donc avec toutes ces delays, effectivement tous ces effets analogiques assez beaux. Et là, c'est vrai qu'effectivement on peut voir avec bon un titre comme celui-là, mais des tas d'autres. Que effectivement, on a une. Ben, les musiques de Mondo, finalement, ont synthétisé un petit peu tous les courants, un petit peu. Ils ont traversé, de toute façon, 30 ans du XXe siècle, et donc pendant ces 30 ans, ils ont imprégné complètement toutes les modes. Alors, on est passé de l'exotica des années 60, on est passé au psychédélisme dans les années 70, avec des musiques des fois qui tiraient presque vers le rock progressif, puis on arrive à la fin des années...
À la disco, au punk, tout y passe en fait.
Tout y passe et tout est remixé, parce qu'il y a une espèce de c'est vrai que le Mondo, quelque part, c'est une espèce d'énorme caisse de résonance culturelle, donc on y retrouve le meilleur et le pire, mais tout est dedans. Quoi.
Et ce qui est marquant souvent dans les Mondos, enfin, ce que j'ai vu, c'est que généralement la musique du générique est très attrayante, presque bucolique, gentille, alors que le film, généralement, s'engouffre justement dans un domaine pas si attrayant que ça.
Mais ça, ça par exemple, c'est vrai que c'est un procédé esthétique extrêmement fort. C'est-à-dire qu'effectivement, on a, bon, tout le monde se souvient de la BO de Cannibal Holocaust, par exemple, où on a ce thème comme ça, complètement élégiaque, on est vraiment dans quelque chose de presque aérien, et d'un seul coup on arrive dans ce film avec des scènes abominables, d'animaux massacrés, de cannibalisme,
dans la boue.
Évidemment, tous les spectateurs, ce qu'il y a de frappant, c'est que tous les spectateurs qui voient Cannibal Holocaust se souviennent de ça, ils disent mais c'est des images horribles avec de la musique douce. Et ça c'est évidemment, c'est un truc que, en tant que spectateur, quand on découvrait les mondos à la Cinémathèque, ça fait partie des éléments effectivement qui nous ont de suite percutés, parce que c'est un cinéma qui propose un rapport son, musique, image. C'est-à-dire qu'on a l'image brute, c'est-à-dire le document, mais on a le commentaire et la musique. Donc on a la confrontation de trois éléments, et ça donne, en tant que théorie sur le cinéma, c'est passionnant. Parce qu'on est surpris, par exemple, de voir... on a écrit des tas de bouquins sur je pense notamment à Michel Chion, qui avait fait toute une théorie sur le son au cinéma, la musique au cinéma, l'image, etc. Mais le Mondo n'a jamais été pris comme un objet d'étude. C'est pourtant, s'il y a bien un cinéma qui, justement, qui interroge...
Qui bouscule les règles, en fait. Qui prouve que c'est faisable.
que c'est faisable. Et puis, s'il y a bien un truc qu'il faut analyser, c'est quand même ce commentaire... qui détourne parfois le sens des images, la musique qui crée une émotion qui contraste totalement avec ce qui est montré. Donc, ne serait-ce qu'en tant qu'objet théorique sur le cinéma, c'est passionnant. Donc il fallait à un moment donné qu'il y ait quelque chose d'écrit dessus.
C'est très riche, et puis en plus, bon, vu qu'il n'y avait pas d'acteurs à payer, voilà, le budget pouvait partir dans la composition, et du coup, certains compositeurs, ils avaient les orchestres philharmoniques, ils avaient tout ce qu'il fallait... pour composer, et c'est vrai que la musique dans le Mondo, c'est à peu près toute la durée du film.
Oui.
C'est très rare le silence dans le Mondo, il y a toujours la musique, et ça bouge beaucoup, les corps bougent beaucoup,
oui.
le son et le corps font vraiment écho dans tous ces films-là.
Oui, parce que c'est des films où on danse beaucoup, il est beaucoup question de rituels, de fêtes, de... Donc c'est vrai qu'on est dans une espèce de sarabande, comme ça, une sorte de fête triste, qui traverse le film comme ça, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très... il y a une forme de mélancolie qui en sort, en tout cas une vision, je dirais, du monde, qui est très triste, souvent très misanthrope, mais il y a toujours cette idée d'une fête comme ça éternisante, une sorte de bal comme ça macabre, et ça c'est quelque chose aussi évidemment qui nous avait frappé de manière très forte.
D'accord. Est-ce qu'avec la scène de la chèvre, on peut considérer Terre sans pain comme un ancêtre du Mondo, le film de Buñuel?
Alors, bon, on sait, justement, c'est on aborde un domaine un peu polémique, parce qu'on a choisi d'assimiler Terre sans pain, donc le fameux, le célèbre film de Buñuel, connu sous le nom de La Surdesse, comme un ancêtre du Mondo. Alors évidemment, associer Buñuel, cinéaste évidemment... adulé par la critique qui est totalement intégré comme un ancêtre du Mondo, on s'est fait un petit peu critiquer là-dessus, mais on persiste, c'est-à-dire qu'on a, on a quand même, oui, pour nous, la scène de la chèvre, il faut rappeler pour ceux qui l'ont pas vu, donc il s'agit d'une scène où en fait Buñuel voulait pour dénoncer la misère dans les montagnes espagnoles. Montre en fait des gens qui vivent dans des villages misérables, et on les voit en train de s'emparer des cadavres de chèvres qui tombent des montagnes et qui les mangent. Et évidemment, pour les besoins du film, Buñuel a fait tirer sur une chèvre à coup de fusil, donc on voit clairement le canon du fusil qui dépasse, et la chèvre se fait tuer. Et Buñuel a également tuer un âne d'une manière particulièrement atroce, puisqu'ils l'ont ils ont cassé des ruches d'abeilles sur son corps, ce qui fait que l'animal est dévoré vivant par des abeilles. Et évidemment, tout ça est filmé, et on a su que effectivement c'était orchestré par l'équipe de tournage. Donc oui, en ce sens, c'est du pur Mondo, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose une forme de pratique un petit peu immorale, mais c'est vrai que Terre sans pain est adoré par les cinéphiles. Parce que ce qui m'a fait beaucoup rire, c'était j'étais tombé il n'y a pas très longtemps sur un article où le critique, évidemment, trouvait que Terre sans Pain était un film admirable, et notamment il applaudissait le film pour, je cite, son ton faussement neutre, ce qui nous fait doucement rigoler quand on voit le caractère outrageusement subjectif de la voix off, et bon, ce qui nous amène encore une fois à penser qu'il y a toujours un côté un petit peu versatile dans ce qui est considéré par la critique ou par les gens comme moralement acceptable et ce qui ne l'est pas.
Et puis la morale, je dirais les frontières de la morale évoluent en fonction de la société aussi.
Oui.
Puis, bon, ce qui était pas moral il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans peut le devenir et réciproquement.
Oui, et puis ça me parlait qu'il y a tout un aspect, on a beaucoup évidemment attribué au Mondo un propos idéologique noir, c'est-à-dire qu'on a souvent interpellé les réalisateurs comme étant des monstres ou des bon. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là, c'est qu'on s'aperçoit que ces frontières-là, mais comme souvent, elles sont floues et interchangeables. Il y a certaines pratiques qui sont condamnées, du moins dans certaines productions, et qui sont acceptées dans d'autres. Apocalypse Now, de Coppola, qui est considéré par tout le monde comme un chef-d'œuvre, on oublie souvent de mentionner qu'on a tué des animaux et utilisé de véritables cadavres humains quand même pour le tournage. Bon, c'est ce qui n'empêche que Apocalypse Now est montré dans toutes les écoles de cinéma et totalement accepté comme tel.
Donc, après des éléments de films Mondo, on peut en trouver énormément dans le cinéma, même dans des œuvres classiques, même des films de Chris Marker. On pourrait extraire des scènes. Un très beau documentaire américain des années 50 qui s'appelle The Savage Eye. En soi, si ce n'était cette narration très poétique, très personnelle, qui en fait un superbe film d'auteur, on pourrait complètement, juste en bifurquant un peu, en changeant la voix off, des choses comme ça, tomber dans quelque chose qui serait du pur Mondo. Donc c'est vrai qu'après, c'est comme une sorte de toile, puis ça peut partir dans plein de sens. Donc dans Les Ancêtres, on a pu aussi bien aller vers les films de jungle des années 20, les films d'exécution fausse ou pas du tout début du cinéma, ou tout début du siècle, les films de Jean Rouch.
Oui,
évidemment.
Il y a énormément de choses, en fait, vu que c'est un cinéma qui intègre tellement de langage. Il y a des scènes, ça pourrait être des scènes de western, des scènes de comédie musicale, des scènes de films d'angoisse. Certains Mondo, d'ailleurs, étaient vendus comme des films fantastiques, alors que c'est quand même plutôt du documentaire. Donc, on est à la croisée de tous ces langages-là qui font le cinéma. Donc, bien sûr que Buñuel à sa place dans ce livre.
Oui, puis il y a une idée aussi qu'on a essayé de défendre, parce que c'est quelque chose aussi qui nous a frappé, et plus on faisait des recherches et plus on s'apercevait qu'on, quelque part, on était un petit peu dans le vrai, c'est qu'on a commencé finalement à faire du Mondo dès qu'on a inventé le cinématographe. C'est-à-dire qu'on a, dès que la caméra a été inventée, dès qu'on a vraiment créé le cinématographe, on a fait du Mondo de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'on a de suite commencé à chercher des images chocs, on a dès les débuts du cinéma, on a commencé à mélanger la réalité et la fiction. On a filmé des exécutions d'animaux, il y avait le fameux Electrocuting an Elephant de Thomas Edison, qui était la première fois, un éléphant électrocuté, on ne voit pas ça tous les jours. Et c'est vrai que on voit que dès qu'on a inventé la caméra, c'était presque pour faire ça. Donc on en est arrivé à cette conclusion-là, c'est que le Mondo, même s'il a été considéré comme une perversion du cinéma, etc., on a toujours au contraire défendu l'idée que c'est un cinéma qui répond à une donnée cinématographique fondamentale, un besoin fondamental du cinéma. Parce que c'est vrai qu'il y a une... Même si beaucoup de gens s'en défendent aujourd'hui, on a ce besoin d'image choc, on a besoin de... Et c'est valable pour la télévision, c'est valable pour Internet, c'est valable même pour le cinéma d'art et essai. Il y a un degré, je dirais, élémentaire, c'est ça, d'image choc. Je ne sais pas comment on pourrait...
C'est vraiment le terme sensationnel. C'est vraiment un cinéma de la sensation pour donner des sensations.
Oui. Et donc, on est dans quelque chose qui est, je dirais, fondamental au cinéma. Et donc, le Mondo, finalement, n'a fait que mettre en forme, je dirais, un besoin élémentaire des spectateurs. Et je pense que c'est valable pour tous les spectateurs. Même si beaucoup de gens s'en défendent, il y a quand même une... Ça correspond, je dirais, ce qu'on a appelé un degré de voyeurisme élémentaire.
Alors, Reflet dans un œil mort, déjà, le titre est rigolo, parce qu'on repense au film avec Brando. Bon, ouais.
Qui a trouvé le titre. En fait, c'est plus un hommage au roman de Carson McCullers, dans lequel, justement, le reflet du pan... dans les yeux du pan se reflétait une image grotesque du monde, une image difforme. Et en fait, ce sorte de miroir déformant, on trouvait que c'était une bonne idée, sorte de le mondo comme un reflet de tout ce qui se passe dans le monde, justement.
Oui.
Mais évidemment, une vision très noire, vu qu'on a changé l'or par la mort. Procédé alchimique avec les mots.
Procédé alchimique avec les mots. Il faut rappeler aussi que ça fait référence à de nombreuses séquences et de nombreux plans qu'on voit dans les mondos, où on a effectivement une insistance assez macabre parfois sur les yeux des cadavres. Il y a une scène par exemple.
L'instant de pesance.
Oui, bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose. Bon, je pense au dernier cri de la savane, où on voit un cerf qui se fait tuer pendant une chasse, et on a un plan très insistant sur ses yeux comme ça qui meurt. Et c'est très fort. Et ça, c'est un ensemble d'images comme ça qui ont orienté effectivement ce titre-là.
Alors justement, il y a beaucoup de mondos qui ont mis en effet miroir, je dirais, la jungle des villes et la jungle telle qu'on la conçoit habituellement.
Oui.
Oui, ça c'est un élément très fréquent, notamment dans pas mal des mondos des années 70,
ouais.
Ceux des Mario Mora, de Climati,
Les Bêtes Féroces Attaquent, Dimensione Violenza.
Voilà, tous ces films-là où on a d'un côté la description un peu d'une sorte de paradis terrestre, une nature sublime, mais dans laquelle, cela dit, une nature qui est aussi extrêmement hostile. Violente et hostile. Et la ville qui est en fait une sorte de... une jungle aussi, mais de béton, où là aussi, ça se tue, ça...
Oui, et puis ça renvoie aux préoccupations qu'on sentait beaucoup dans la culture des années 70, c'est-à-dire dans les années 70, c'est ce moment-là où on a commencé un petit peu à poser un regard sur ce nouvel urbanisme. Et c'est vrai qu'on a commencé à voir des films, quel que soit le genre d'ailleurs, des films d'horreur, des films de science-fiction, où on avait cette représentation de la ville effectivement comme une forme de nouvelle barbarie. Et ça, c'est quelque chose, évidemment. Puis on pense aussi à la littérature de Jim G. Ballard, qui est très proche du mondo par certains aspects. Et c'est vrai qu'il y a, ça renvoie effectivement. On a une peinture à partir des années 70 de monde urbanisé, de plus en plus fou. Et notamment la série des Faces à la mort aussi renvoie beaucoup. C'était film urbain. Alors que les films des années 60 étaient beaucoup plus effectivement dans l'exotisme pur. À partir des années 70, la ville devient un personnage de plus en plus présent, proéminent dans ces films-là, et au point qu'au bout d'un certain temps, l'exotisme va disparaître pour de bon. C'est-à-dire qu'on va être plus dans la terreur urbaine. Et donc ça, là, on avait basculé complètement dans autre chose.
Mais c'est vraiment des parallèles constants avec toujours, que ce soit à la ville, avec ces films de paranoïa urbaine, attention, vous allez prendre le train, vous allez crever, vous prenez l'avion, vous allez vous cracher, et en même temps, la nature aussi dépeinte un peu comme un enfer terrestre aussi, avec des hommes debout, des hommes primitifs, avec des rites absolument barbares pour l'œil occidental, c'est-à-dire l'œil des gens qui allaient voir ces films-là. C'est notre œil aussi. Donc c'est vrai que dans les deux cas, on est face à une imagerie totalement infernale, une sorte d'enfer de Dante, que ce soit dans la nature la plus sauvage ou dans la dans les plus grandes villes, on aura toujours cette vision extrêmement noire.
Oui, et puis sans parler du fait que, bon, comme on l'a dit, le Mondo est un genre italien, et on sent beaucoup, à travers les citations
de Dante... Même s'il n'y a pas eu que des Mondos italiens.
Non, bon, voilà. mais c'est vrai qu'en Italie, on sent quand même le poids d'une vision catholique. Je veux dire par là qu'il y a quand même il y a énormément de références à l'enfer biblique, etc. Les Mondos américains sont peut-être effectivement plus proche dans leur ton d'une forme de fondamentalisme extrême.
Protestant,
où là c'est l'apocalypse, mais c'est l'apocalypse qui va tomber du ciel pour nous foudroyer, alors que dans les films italiens, c'est plus l'apocalypse, c'est l'enfer sur terre. C'est peut-être pas exactement la même vision.
Ouais.
D'accord. Alors il y a un film important qui fait un peu la jonction justement entre le film de Cannibal et le Mondo, c'est Cannibal Holocaust.
Ouais,
et il y a peut-être un élément important aussi qu'on pourrait rajouter à Cannibal Holocaust, c'est que c'est un film qui dénonce aussi et qui, je dirais, qui fait tomber d'une certaine façon de leur piédestal ce qu'on appelle les envoyés spéciaux ou les grands reporters, qui avaient une espèce d'image d'épinal. À cette époque-là, c'est-à-dire c'est des gens qui prenaient, qui risquaient leur vie pour aller ramener des images improbables.
Oui.
Et en fait, le film, s'attaque clairement à ça, quoi.
Oui.
Oui, ce qui est tout à fait le cas des réalisateurs de Mondo, qui ont été confrontés à des choses extrêmement dangereuses et qui ont risqué leur vie. C'est vrai que donc Cannibal Holocaust est quelque part une vraie satire de cet esprit-là, mais c'est vrai qu'en faisant des recherches, on a trouvé un film antérieur qui s'appelle aussi, en français c'est La cible dans l'œil, L'occhio selvaggio, donc l'œil sauvage littéralement, qui là aussi était déjà dès 1967 une satire des extrêmes auxquels sont poussés les reporters à sensations en fait, et qui a été fait d'ailleurs par Paolo Cavara, qui était un des co-réalisateurs de Mondo Cannes.
Oui, et un film assez, assez poignant, puisqu'en fait on voit donc ce personnage principal qui est une sorte de reporter sans scrupules et qui est prêt à toutes les supercheries pour créer des images à scandale. Alors on le voit soudoyer des gens pour qu'ils fassent des trucs devant la caméra. Il essaie même à un moment donné de soudoyer un moine bouddhiste pour qu'il s'immole par le feu devant la caméra. Et évidemment, il va filmer des exécutions en se mettant du côté des tireurs. Donc on est vraiment face à une forme de satire du monde journalistique et critique qui reste aujourd'hui peut-être encore totalement d'actualité. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de je veux dire, on est témoin chaque jour, je dirais, de cette forme de corruption particulière qui touche tous les milieux médiatiques, au point qu'on peut se demander si c'est pas le média qui corrompt et ceux qui s'y adonnent. Et c'est vrai que d'une manière générale, c'est une critique de l'image qui reste totalement d'actualité. Faut rappeler quelque chose aussi, c'est que Cannibal Holocaust, aujourd'hui, après avoir été interdit, critiqué, etc., depuis un certain nombre d'années, a créé toute une génération de véritables clones. C'est-à-dire qu'on voit depuis toutes ces dernières années.
Blair Witch Project, par exemple.
Qui était une première copie. Et surtout, depuis ces 2-3 dernières années, on voit beaucoup de films d'horreur tournés comme de faux documentaires, avec la caméra subjective, etc. Bon, là, notamment le festival, l'étrange festival, on avait vu le dernier Exorcisme, bon, qui est le dernier rejeton un peu de cette école qui commence un petit peu maintenant à se répéter, vu que bon, maintenant on peut pas innover non plus sur un canevas pareil, c'est-à-dire que la caméra subjective au bout d'un moment donné.
Ou alors il faut s'appeler Balaguero.
Voilà, c'est ça. Parce et que, c'est vrai qu'il y a. Il y a
en fait, c'est encore plus fort, c'est-à-dire c'est une caméra et un lieu.
Oui, voilà.
En huis clos.
Fameux Rec, bon, qui est un film de zombies, mais tourné avec la caméra subjective. Romero aussi, bon, bref. Et c'est vrai qu'on a. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un peu. Deodato, d'ailleurs, s'est exprimé d'ailleurs sur le sujet en disant qu'il était parfaitement conscient de la filiation de Cannibal Holocaust avec tous ces films-là. Donc, il y a une actualité, malgré tout, autour de ça. Sauf qu'évidemment, il y a quand même une différence qui est très très marquée entre le Mondo et le cinéma d'aujourd'hui, c'est que c'était de la pellicule.
Oui, justement, j'allais y venir. Parce que, alors, je sais plus si c'est Adieu Africa ou les derniers cris de la savane qui s'ouvre sur une partie de chasse hallucinante qui a été tournée en scope 35 un travail
c'est les derniers cris,
hallucinant quoi. Bon, y a un vrai travail cinématographique
Esthétiquement, c'est
avec une grosse équipe en extérieur quoi. C'est ça qui est impressionnant.
Il faut savoir qu'il y a pas mal de réalisateurs italiens de cette époque qui avaient quand même des producteurs et pas des moindres, vu qu'il y a Alberto Grimaldi qui a financé des films des Castiglioni notamment, et qui a par ailleurs aussi financé des western spaghetti très connus pour une poignée de dollars. Ouais, je crois que c'est lui.
Laurent Labrutet, le truand.
Voilà, donc il y avait des moyens, il y avait de sacrés moyens, et il y avait des sacrés chefs opérateurs. Sacré directeur de la photo, enfin, c'est du cinéma. Hein.
C'est du cinéma, et c'est ça qui crée une différence fondamentale avec les productions actuelles. Aujourd'hui, on tourne en vidéo avec des moyens dérisoires, et c'est vrai qu'on est dans quelque chose, en tout cas. Si on a dit effectivement que le Mondo annonçait la télé-réalité, il s'en écarte de par les moyens qu'il se donne. C'est-à-dire qu'on est dans une production cinématographique, en pellicule, en scope, couleur. Donc c'est très très différent. C'est une des raisons pour laquelle on ne pourrait plus financer des films comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut... dans l'éventualité un petit peu improbable que quelqu'un veuille refaire Mondo aujourd'hui, il serait obligé de le tourner en vidéo, avec pas d'argent. Ça donnerait quelque chose de l'ordre plus du zapping télévisuel que du cinéma.
D'accord. Peut-être un mot avant de passer justement un extrait des derniers cris de la savane.
Oui.
Un extrait de la BO, hein, j'entends.
Oui.
Voilà. Donc, je précise parce que bon, des fois, justement, au départ, au début, vous disiez sexe et violence, et c'est vrai que le sexe aussi a été très présent dans les Mondo sous toute forme. Hein, je veux dire, ça va du striptease. Aux pratiques SM, et même en France, bon, on a un réalisateur qui a pas mal travaillé la question, qui s'appelle François Reichenbach.
Notamment avec pas été le seul,
notamment avec Sex O'Clock USA. Non, mais je veux dire, il n'a pas été le seul, mais justement, paradoxalement, François Reichenbach a une espèce de respectabilité entre guillemets que n'ont pas trop les autres quoi.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est sûr que François Reichenbach on peut pas être mis dans le même sac que des gens comme Michel Rico ou des gens comme ça.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette idée, c'est vrai que notamment dans les Mondo français, on a eu, c'est vrai, une prédilection pour le sexe, l'érotisme, et c'est vrai que ça allait de tout. C'est vrai qu'on a, enfin, on retrouve toujours quand même des ingrédients un petit peu permanents.
Mais on voit aussi l'évolution des tabous, des interdits, parce qu'au bout du compte, ça tourne toujours autour des interdits à une époque donnée. Les titres des films eux-mêmes, les interdits du monde, la France interdite, etc., Asie interdite, enfin, il y a toujours interdit dedans. Et on est toujours allé pousser les tabous plus loin, ouvrir les portes pour au bout du compte ne montrer que de la sexualité. Allez, on va vous montrer. Un peu comme dans une foire aux monstres aussi, un côté. Alors, on vous ouvre les portes et vous allez voir ce que c'est que le lesbianisme ou le bondage. Qu'est-ce que c'est que ce rite bizarre
Alors, évidemment, en 30 ans, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début des années 60, bon, montrer des travestis dans Mondo Canet, c'était... Alors, d'un seul coup, les gens riaient aux éclats parce que bon, c'était des travestis, etc. Sauf qu'évidemment, 10 ans, 15 ans après, bon, le travestissement était plus ou moins...
Là, c'est l'opération du sexe.
C'est l'opération du sexe, quoi.
Et filmé en gros plan.
Et c'est vrai que, par exemple, on a un film comme La France interdite qui est entièrement consacré à ça. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de visite un peu de la France où on nous montre le... J'aime beaucoup la scène de sadomasochisme à Foix où on nous explique que la ville de Foix... pour s'il y a des auditeurs de là-bas qui nous écoutent, donc est un haut lieu du sadomasochisme en France où on voit des gens dans un donjon en train de se fouetter, etc. Et donc, c'est des petits moments de bonheur, comme ça. Et c'est vrai qu'évidemment, à partir d'un certain degré, on peut dire que tous les tabous ont été montrés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a eus filmés, ben, ça devenait difficile, après, d'aller au-delà. C'est-à-dire que le Mondo, surtout dans sa représentation du sexe, évidemment, comme on s'en doute, était un petit peu condamné à la surenchère et donc, au bout d'un moment donné, à s'éteindre tout seul, parce qu'on ne pouvait pas, une fois qu'on a brisé tous les tabous possibles et imaginables, ben, on n'a plus rien.
D'ailleurs, dans les années 80, surtout dans la vision plus morbide du genre, on laisse totalement tomber la sexualité. Il n'y a plus de représentation de... Parce que c'est difficile de devenir choquant quand on amasse toujours les mêmes scènes. Oui. C'était Harry Cruz qui disait qu'il n'y a rien de plus monotone que le vice humain. Parce que quand on cumule toujours les mêmes scènes de vice, ça devient une sorte de routine qu'on représente.
Oui.
Donc il n'y a plus rien de sensationnel, donc ça n'a plus de valeur pour un mondo.
Et c'est un des aspects frappants justement dans le mondo, c'est qu'on a... Alors on est face à une forme d'anti-érotisme, c'est ça qui est très, très frappant, très curieux, c'est qu'on a beau cumuler des scènes de sexe et de striptease et de tout ce qu'on veut, on s'aperçoit que l'effet, je dirais, le premier effet du cinéma érotique ou pornographique, c'est-à-dire le but d'exciter le spectateur, mais ça marche pas avec le mondo, bizarrement, parce qu'on est dans plus une représentation beaucoup plus laide, vulgaire, ou voire écœurante hein, de la sexualité, on est quand même dans la monstration de la laideur. Et donc,
c'est toujours un sexe qui se monnaie, qui s'achète, et puis les corps sont vraiment, pour le coup, vraiment objectifiés, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est, du coup, ils perdent leur valeur purement érotique, ils deviennent juste des objets monnayables quelque part.
Oui, et du coup, c'est vrai que ça donne ce cinéma très très étrange, qui tire son langage de l'érotisme et qui n'en est pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose de totalement... c'est une sorte de tue-l'amour. Et c'est vrai que ce qu'il y a de frappant, justement, et particulièrement dans les mondos français, c'est vrai que ça nous a frappé, c'est à quel point le sexe est triste. On est dans quelque chose de monotone, de sordide et d'extrêmement ennuyeux. C'est très... donc, du coup, c'est vrai qu'on est dans quelque chose de c'est ça, c'est peut-être une des choses aussi qui peut indisposer les spectateurs, c'est que on n'est pas dans l'érotisme excitant, c'est plutôt le contraire.
D'accord. Eh ben, on va s'écouter donc un extrait des derniers cris de la savane, qui n'ont rien d'érotique, hein, je précise.
Voilà. Il y en a un petit peu, mais pas trop.
Oui, d'accord. Thank you. Voilà, bah, tout à l'heure on était dans le, on va dire dans l'expérimentation électronique, et là on est dans l'opposé, c'est-à-dire vraiment le côté grand Hollywood.
Voilà, voilà, complètement, hein, grand orchestre.
Oui, avec le thème mélodique, enfin pas mélodramatique, je cherche le terme.
Ah, mélancolique.
Mélancolique, voilà. Oui. Voilà. Ouais, niaiseux, on me dit derrière. Mièvre. C'est les bébés du dehors, ils ont aucun sens de. Voilà. Bon.
On peut dire mièvre. Hein,
mièvre, c'est... voilà.
Ouais. Mais comme quoi, y a, c'est le mondo aussi, des musiques assez douces. Et...
Voilà. Alors, mon coup de cœur à moi, bah, il est tout simple, il est tout trouvé. C'est Reflet dans un œil mort. Voilà.
Merci beaucoup.
De Stéphane Guéraud et Maxime Lachaud. Donc, Mondo Movie et film de cannibale, paru donc dans la collection Bazar.
Bazar & Co.
Voilà, Bazar & Co. Thank you.